France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. L'enlèvement d'un as des crypto-monnaies, cela se passe dans le Berry. Le cofondateur de l'une des start-up françaises les plus en vue a finalement été retrouvé au terme d'une traque menée dans la plus grande discrétion par le GIGN. Explication à suivre. À suivre encore, le refus de relations sexuelles n'est pas un manquement au devoir conjugal. La France condamnée ce matin par la Cour européenne des droits de l'homme. La disparition du journaliste Jean-François Kahn, à l'âge de 86 ans, le fondateur de Marianne et le musée du Louvre qui appelle à l'aide. Bonjour Victor Vasseur.
Bonjour.
Sa conservatrice demande de grands travaux.
Infiltration d'eau, problème de température pour la conservation des œuvres, manque d'espace pour s'asseoir et manger. La présidente directrice du Louvre alerte concernant le plus grand musée des mondes.
Nous ferons la visite avec vous et nous verrons également que payer avec son portable au péage n'est pas possible. Selon les forces de l'ordre, cet automobiliste en a fait l'expérience.
J'arrive à un péage, je sors mon téléphone et je paye en Apple Pay, j'ai payé le péage. Instantanément, moto, gyrophare. Et là, il me dit amende 90 euros, 3 points sur le permis, vous les réglez maintenant ou quoi ?
Emmanuel Macron, vous le verrez, est intervenu dans ce dossier. Nous serons également en direct d'Italie, les Italiens qui ont relâché il y a quelques jours le chef de la police libyenne qui était pourtant poursuivi par la Cour pénale internationale. À partir de 13h30, comment les Canadiens regardent-ils le retour au pouvoir de Donald Trump chez leurs voisins américains ? La mairesse de Montréal, Valérie Plante, est notre invitée. 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h50, c'est la France. Dans les coulisses du plus prestigieux concours de chef, c'est le Bocuse d'Or à partir de dimanche à Lyon. Récit de Marie-Luce Ribaud du journal Sud-Ouest. Juste avant 14h, c'est une chanson. Camille Lelouch, Maria Carré et Frédéric Pommier. Et puis vous n'irez plus danser au Macumba et nous vous dirons pourquoi dans une vingtaine de minutes. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Qui sait que la campagne berrichonne abrite tout près de Vierzon l'une des entreprises, l'une des start-up françaises les plus performantes dans le domaine des crypto-monnaies. Elle s'appelle Ledger, 600 salariés valorisés plus d'un milliard de dollars. Manifestement, cette réussite n'a pas échappé à tout le monde. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
L'un des cofondateurs de cette entreprise a été enlevé dans l'Indre, donc l'affaire a été prise très au sérieux par les autorités et finalement, cet homme a pu être retrouvé.
Oui, alors de très très gros moyens en gendarmerie avaient été déclenchés. Une course contre la montre avait été engagée depuis mardi matin dans la région de Vierzon avec un déploiement conséquent donc de gendarmes et surtout donc du GIGN pour retrouver ce fondateur de Ledger, David Ballan. Génie de l'informatique, vous l'avez dit, de cette licorne berrichonne spécialisée effectivement dans la sécurisation des transactions de crypto-monnaies, dans la protection des portefeuilles de Bitcoin notamment. Ledger a des clients dans le monde entier. Hier, plusieurs logements avaient été perquisitionnés à Vierzon, pas très loin du parc d'entreprise où est situé le siège de Ledger, mais à chaque fois cela n'avait rien donné. Et il y a quelques minutes, effectivement, la division de lutte contre la criminalité organisée du parquet de Paris a confirmé que le jeune dirigeant a finalement été retrouvée. La victime avait été emmenée par ses ravisseurs à bord d'une voiture et conduite à une autre adresse où elle a été séquestrée. Et effectivement, les kidnappeurs réclamaient une rançon. Il y a eu une négociation avec le GIGN, mais le GIGN a pu intervenir, localiser cette maison dont on ne sait pas encore où elle se trouvait et les kidnappeurs n'ont pas pu encaisser cette rançon.
Et donc cet homme a été retrouvé, information signée Emmanuel Leclerc. À Besançon, l'enquête progresse après les tirs qui ont visé la semaine dernière plusieurs commerces de l'agglomération. Ils ont tous été commis avec la même arme et sont tous liés au trafic de stupéfiants. Dans ce contexte, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a annoncé ce matin que la prison pour narcotrafiquants qu'il veut créer serait bien en fonction le 31 juillet. 4 millions d'euros ont été débloqués, dit-il. Refuser une relation sexuelle à son mari. Pour une femme, est-ce une faute dans le cadre du mariage ? À cette question, en 2019, la cour d'appel de Versailles avait répondu oui et prononcé le divorce d'un couple au tort exclusif de l'épouse pour, je cite, « manquement au devoir conjugal ». Ce jour-là, la justice française a commis une erreur. Bonjour Sarah Guimaudeau.
Bonjour.
Voilà ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme qui condamne la France.
Oui, et on est heureuse de le lire, hein, le devoir conjugal, toujours en vigueur dans le Code civil, article 242, ne prend nullement en considération le consentement aux relations sexuelles, nous dit la CEDH. L'existence même d'une telle obligation est contraire à la liberté sexuelle et au droit de disposer de son corps. La Cour a été saisie par une Française qui s'est mariée en 1984, qui a demandé le divorce en 2012. Chacun des deux époux invoquait la faute de l'autre. Elle faisait valoir que son conjoint avait privilégié sa carrière professionnelle au détriment de leur vie familiale, qu'il s'était montré irascible et blessant, lui arguait que sa femme s'était donc soustraite au devoir conjugal pendant des années et proférait des accusations calomnieuses. La Cour d'appel de Versailles prononce en 2019 le divorce au tort exclusif de madame. Son pourvoi est rejeté par la Cour de cassation, dont la jurisprudence ancienne mais constante considère que les époux sont tenus au devoir conjugal, ce qui peut avoir des conséquences financières pour l'époux à qui incombe la faute lors du divorce. Espérons que l'arrêt de la CEDH de ce matin fera changer notre loi.
Merci Sarah Guibaudot. Voilà une actualité qui aurait passionné Jean-François Kahn, l'une des figures du journalisme français, et qui vient de mourir à l'âge de 86 ans, patron de presse, créateur de journaux, Marianne, l'événement du jeudi. Jean-François Kahn, inlassable débatteur, foot politique au point de se lancer dans la campagne des européennes, c'était en 2009. Bonjour Clémentine Sabrier.
Bonjour.
Difficile de résumer un tel personnage inclassable.
On va essayer. Sa carrière de journaliste débute quand il a 20 ans, en 1959. Il est reporter, il couvre la guerre d'Algérie, il travaille au Monde, puis à l'Express. Et c'est en 1984 qu'il crée l'événement du jeudi, un hebdomadaire avec lequel, dit-il, il veut taper autant sur la gauche que sur la droite. En 1997, le journaliste cofonde avec Maurice Safran un nouvel hebdomadaire avec un ton plutôt de gauche, Marianne, un nom très critiqué mais qu'il assume totalement dans l'émission à voix nue sur France Culture en 2002.
Ça s'appelait Marianne. Eh bien, même autour de moi, même des amis. Mais quand même, pourquoi t'as pris un titre d'extrême droite avec une image d'extrême droite ? On en était arrivé au point, et c'est ce que la gauche paye aujourd'hui, où le mot Marianne et le drapeau bleu-blanc-rouge étaient considérés comme le signe d'une dérive vers l'extrême droite. C'était terrible.
Jean-François Kahn aimait la politique au point de soutenir François Bayrou contre Nicolas Sarkozy lors de l'élection présidentielle de 2007. Et c'est une polémique qui met fin à sa carrière. On est en 2011, en pleine affaire DSK. Jean-François Kahn évoque le viol de Nafissa Toudialo, là encore sur France Culture.
Qui est une imprudence, on peut pas le... je sais pas comment dire... Un troussage.
Il appelait ça une erreur de jugement.
Qu'il y ait un troussage de domestique, enfin, je veux dire, ce qui est pas bien. Mais je mets, voilà, c'est une impression.
Plus tard, il reconnaît l'emploi d'un terme inacceptable, présente ses excuses. Il était encore chroniqueur ponctuel pour Marianne, Le Point ou encore Le Quotidien Le Soir en Belgique.
Merci Clémentine Sabrier. C'est devenu un geste banal, le vôtre ou celui d'un client à côté de vous à la caisse. Payer dans les commerces avec son téléphone, ce qu'on appelle le paiement mobile. Mais ce n'est pas possible en toutes circonstances et un automobiliste vient de s'en rendre compte à un péage où il a été verbalisé. Bonjour Xavier Demani.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Il se trouve que cet automobiliste est aussi influenceur et que l'affaire est remontée jusqu'au président de la République.
Oui, tout est donc parti de ce témoignage sur TikTok, vu des centaines de milliers de fois, on va le réentendre.
J'arrive à un péage, c'était 25,90€, je sors mon téléphone, boum, et je paye un Apple Pay, j'ai payé le péage. Et quand je vous dis instantanément, c'est instantanément, moto, gyrophare. Et là il me dit, amende 90€, 3 points sur le permis, vous les réglez maintenant ou quoi ?
Et auquel Emmanuel Macron a donc répondu, même réseau, vidéo, en mode selfie.
Je crois qu'en 2025, on doit pouvoir payer au péage avec son téléphone. J'ai passé le dossier au ministre de l'Intérieur et on va collectivement régler ça. Merci pour l'alerte.
Le dossier est effectivement à l'étude, nous dit la place Beauvau, mais d'ici là, il est bien interdit par le code de la route, article R412-6 alinéa 1, de tenir son téléphone en main au péage ou au feu rouge, par exemple. L'avocat spécialiste du droit routier Rémi Jossaume pointe l'absurdité de la situation et en appelle à une évolution rapide.
Il faut tout de suite réagir, on peut le faire par voie de circulaire, donner instruction aux forces de l'ordre de ne pas verbaliser ce type de comportement, puis modifier le code de la route par décret, c'est très rapide, on pourrait tout simplement exclure des interdictions cette pratique qui est d'ailleurs incitée par les sociétés d'autoroute.
Alors, vérification faite, certaines d'entre elles conseillent en effet d'utiliser le sans contact, mais pas forcément avec le téléphone. Lancé il y a moins de 10 ans, les services comme Apple ou Google Pay se sont en tout cas démocratisés à vitesse grand V. Ils représenteraient, Jérôme, aujourd'hui, selon les sources, environ 15% des paiements.
Xavier Demany. Dans sa longue histoire, le musée du Louvre a au moins failli disparaître à deux reprises. Dans un incendie, pendant la Commune de Paris 1871, et puis sous l'occupation, son directeur Jacques Jaujard était parvenu à sauver ses œuvres de l'appétit des nazis. Nous n'en sommes pas là, mais l'alerte lancée par sa patronne actuelle, Laurence Descartes, est sérieuse. Le musée est saturé et vétuste, écrit-elle dans une note adressée à la ministre de la Culture, Rachida Dati, note révélée ce matin par le journal Le Parisien aujourd'hui en France. Bonjour Julien Baldacchino.
Bonjour.
Vous nous direz dans un instant ce qui peut être fait et à quel prix. D'abord, allons au Louvre, 8 700 000 visiteurs l'an dernier, dans un édifice conçu pour en accueillir 4. On est donc à l'étroit, Victor Vasseur, on vous retrouve à l'étroit, vous l'avez constaté notamment devant la Joconde.
Oui, où il faut jouer d'écoute pour la contempler de près, de quoi décourager Lucas, étudiant de 21 ans.
J'ai même pas trop cherché à aller devant, les gens regardent même pas la Joconde, ils la regardent de dos en faisant le selfie quoi. Limite, il faudrait faire une salle où il n'y ait que la Joconde en plein milieu et de l'espace parce que en fait, les gens ne regardent pas les tableaux à côté, donc ça ne sert à rien de mettre des toiles sur les murs à côté.
Alors pour Maryse, une habituée du Louvre et son amie Anne, 82 ans, pour éviter l'affluence, elles ont un stratagème.
Aujourd'hui, on fait que c'est la période italienne.
15e, 16e, c'est voilà. Tout. Et on s'en va. Et voilà. Puis dans un mois, on fait une autre salle et ainsi de suite. Pour ne pas saturer, sinon c'est très fatigant.
Comme la présidente du Louvre, ces deux retraités regrettent le manque d'espace pour s'asseoir et se restaurer. Linda, elle, est guide conférencière, elle accompagne des touristes étrangers et tous viennent pour voir les Jocondes.
Il faut vraiment, vraiment prévenir les gens des conditions, de ce qu'ils vont vivre. Et ils ne sont pas au courant qu'ils vont perdre 50 minutes. Bon, là, on est en basse saison, mais vous avez une heure d'attente pour la voir. Ils voient que c'est un tout petit tableau et tout le monde est focus dessus. Et il y a un bruit de fond, les gens sont hyper déçus de leur visite.
Linda constate aussi ces infiltrations d'eau quand il pleut sur la pyramide du Louvre.
Ben vous avez plein de bacs en dessous de la pyramide de tout, et puis ça coule quoi. Ça fait cheap, ça fait naze quoi. Il faut changer les choses quand même à un moment donné.
Cette guide déplore également le dysfonctionnement l'été de la climatisation.
Merci Victor Vasseur pour cette visite plutôt éloquente et nous sommes, je le rappelle, dans le plus grand musée du monde. Julien Baldacchino, quel est le problème au fond? C'est le manque d'investissement, la surfréquentation? Que dit sa conservatrice? Est-ce qu'on peut donner la parole à Julien Baldacchino?
Oui, cette note dont à France Inter nous avons eu confirmation de l'existence, elle pointe deux grands problèmes. D'une part, un très mauvais état des lieux. Les extraits cités par Le Parisien parlent d'avaries, d'espaces dégradés, surtout de problèmes d'étanchéité et de température. Or, quand il faut conserver des peintures dont les plus anciennes datent de l'Antiquité, eh bien, l'humidité et la température, c'est capital. L'autre grand problème, on l'entendait il y a quelques secondes, c'est l'accueil du public. Pas d'espace de repos dans un musée labyrinthe. Pas assez de toilettes, ni de lieux où se restaurer, et un espace sous la fameuse pyramide où il fait trop chaud, où il y a trop de bruit. En sous-texte, ça veut donc dire pas assez d'investissement, mais il n'y a aucun élément chiffré dans cette note.
Quelles sont maintenant les options sur la table?
Alors il y a des choses qui ont été engagées déjà, comme une jauge quotidienne de 30 000 visiteurs, car au moment de son agrandissement dans les années 80, le Louvre a été calibré pour accueillir 4 millions de visiteurs par an. C'est désormais plus de deux fois plus. Parmi les pistes évoquées, il y a la création d'une nouvelle entrée du public du côté de la cour carrée, donc à l'opposé de la pyramide, et puis évidemment des travaux de rénovation qui seraient forcément très coûteux. Difficile de les chiffrer, mais dans un contexte budgétaire compliqué pour les établissements culturels, ce n'est pas évident. Pour l'heure, le ministère de la Culture que nous avons tenté de joindre n'a pas précisé si des discussions étaient lancées.
Julien Baldacchino pour ses précisions. Tout cela dans un contexte budgétaire très tendu pour la culture, donc on vient de l'entendre, mais aussi pour le sport. 100 millions d'euros de baisse pour le ministère des Sports en 2025, ce qui a déclenché la colère du monde sportif. Deux tribunes publiées cette semaine, avec parmi les signataires Teddy Riner ou encore Léon Marchand. Ces deux-là n'étaient pas là ce matin à l'Assemblée nationale, mais leurs représentants, oui, pour sensibiliser les députés à leur cause, Fanny Lechevestrier.
Oui, sénateur, député, acteur économique, mais aussi ancien champion, président de fédération, tout le monde du sport était réuni à l'Assemblée nationale pour une mobilisation qualifiée d'inédite. Plus le choix, amputer le budget des sports de près de 30%, la coupe est pleine, fustige Belkir Belhadad, député de la première circonscription de Moselle, membre de Renaissance à l'origine de la réunion.
C'est totalement inédit, un moment où on est à la croisée des chemins pour préparer l'après-Jeux Olympiques. Ce sont des équipements en moins, c'est de ne pas pouvoir dans les clubs accueillir des centaines de milliers de jeunes et moins jeunes.
En handball, ce sont ainsi plus de 100 000 enfants qui n'ont pu être accueillis en club faute d'équipements suffisants. Alors avec encore de l'argent en moins, l'héritage des Jeux est devenu un enterrement, insiste Florian Grill, le président de la Fédération française de rugby.
Oui, mais là ça suffit. Enfin, je pense que les acteurs du sport sont déterminés. On a, de manière très collective maintenant, avec l'ensemble des président et présidente de fédération a déclenché l'opération carton rouge à Bercy. Et on ne s'interdit pas, le judo l'a évoqué, d'aller plus loin. On fait beaucoup de portes ouvertes dans le sport. Peut-être qu'un jour, il faudra qu'on passe aux portes fermées.
Avec une date couperée, le 30 janvier prochain, pour le rejet ou l'adoption définitive de la dernière coupe budgétaire. D'ici là, tous les acteurs du sport passent en mode lobbying avec des réunions prévues à Matignon en début de semaine prochaine.
Le budget 2025 qui est soumis cet après-midi au vote des sénateurs. Il devrait l'approuver puisque la droite qui est majoritaire au Sénat, a coécrit ce budget à l'automne dernier avec l'ancien Premier ministre Michel Barnier. Le déficit pour l'année 2024, lui, devrait finalement avoisiner les 6%, nous dit ce matin le ministre de l'Économie. Le projet initial, je le rappelle, prévoyait il y a un an 4,4%. Le déficit, c'est l'un des sujets portés par le nouveau patron de la CPME, le syndicat des petites et moyennes entreprises. Amir Reza Tofighi, c'est son nom, 40 ans, il a été élu mardi. Et il devient l'un des acteurs importants de la vie économique de notre pays, les négociations sur les retraites par exemple. Il est donc intéressant de savoir ce qu'il pense. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
Commençons par son profil, profil qui tranche avec celui de ses prédécesseurs.
Disons Jérôme qu'il apporte un coup de jeune à un syndicat patronal qui a plus de 80 ans. Il a grandi à Grigny en banlieue parisienne, études brillantes, Supélec, HEC et une envie d'entreprendre qui le pousse à 16 ans seulement à créer un site d'actualité sur le foot. Quelques années plus tard, il investit toutes les économie de ses parents, réfugiés politiques iraniens, pour rejoindre le groupe d'aide à la personne Vitalliance, dont il deviendra le président en 2014. Entre-temps, il a cofondé la plateforme de VTC Hitch et celle de location de bateaux Click and Boat. Un pied dans les services, un autre dans la tech, et des idées aujourd'hui affichées sans complexe. Il entend d'ailleurs peser dans le débat public. Sur le financement des retraites, par exemple, il prône le zéro déficit.
Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est déjà d'interdire tout déficit. Et donc en interdisant tout déficit, on n'aura pas le choix. On va trouver des solutions. Alors oui, pour le coup, la CPME, elle prône le fait d'ajouter au système par répartition une bride de capitalisation obligatoire individuelle.
Amir Reza Tofighi reprend les grands marqueurs de la CPME, la politique de l'offre. Il se dit d'ailleurs plutôt confiant après les premières déclarations d'Éric Lombard. L'allègement du coût du travail, la simplification et la flexibilité. Le code du travail, dit-il, devrait tenir sur une page.
Le code du travail, il a été fait dans une logique qui est de penser que le salarié a besoin en permanence d'être protégé contre un méchant patron. Moi, ce que je dis juste, c'est laissons les chefs d'entreprise et les salariés définir ensemble la relation de travail qu'ils veulent avoir, au lieu de se dire que c'est un code du travail de 8000 pages qui doit tout définir.
On ne nous fait pas assez confiance, poursuit-il, sur la transition écologique, sur la santé, sur le développement. Les chefs d'entreprise ont des propositions. Le public n'est pas toujours la solution, conclut celui qui se considère comme libéral, sans en donner de définition précise.
Agnès Soubiran, là ce n'est pas l'argent qui fait débat, mais la méthode. Depuis le début de la semaine, le Premier ministre François Bayrou et la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, s'oppose sur le projet de loi sur la fin de vie. Le Premier ministre veut le scinder en deux avec un texte sur les soins palliatifs d'un côté et un autre sur l'aide à mourir. C'était une demande des opposants au suicide assisté. Mais Yaël Braun-Pivet, elle, insiste, il faut examiner une seule loi et il faut le faire vite.
Nous sommes fin janvier 2025. Si nous ne commençons pas l'examen de ce texte rapidement, nous ne pourrons pas le terminer avant la fin du quinquennat. C'est aussi simple que ça. Et donc si l'on souhaite scinder le texte, eh bien en fait on met en péril ce calendrier. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de texte aujourd'hui. Je n'ai pas deux textes. Moi aujourd'hui je n'ai qu'un texte, qui est la proposition de loi Falorni, qui est déposée, qui est co-signée par 235 parlementaires et qui peut être examinée à n'importe quel moment à l'Assemblée nationale. Si l'on veut scinder le texte, ça veut dire qu'il faut redéposer deux textes, Comme nous sommes en procédure ordinaire, eh bien, il faudra attendre les délais de 6 semaines pour leur inscription. Si ce sont des projets de loi, il faudra recommencer les procédures, peut-être de consultation, mais en tout cas certainement la consultation du Conseil d'État, repassage en Conseil des ministres, etc. Et donc c'est la meilleure façon de perdre encore, allez, un trimestre. Et vous voyez que si l'on veut tenir un calendrier pour terminer avant la fin du quinquennat, c'est très compliqué.
Yaël Braun-Pivet ce matin au micro de Laurence Perron. Cette nouvelle alerte sur la qualité de l'eau, un polluant éternel, le TFA, a été retrouvé dans l'eau du robinet d'une large majorité des villes où il a été recherché. Dans 20 communes sur 30, ce taux dépasse la norme référence en Europe, norme qui entrera en vigueur l'an prochain. Enquête réalisée par l'UFC Que Choisir et par l'ONG environnementale Génération Future.
France Inter, le 13-14... Jérôme Cadet.
Même 5 ans après le début du premier confinement en Chine, c'était le 23 janvier 2020, le Covid reste un tabou absolu dans le pays. Officiellement, la pandémie y a fait 122 000 morts. Le chiffre réel ne sera jamais connu. D'ailleurs, aucune commémoration ne marque aujourd'hui cet anniversaire. Pour toutes ces raisons, l'homme qui a accepté de parler à notre correspondant sur place, cet homme a tenu à garder l'anonymat. L'épidémie a changé son regard sur le régime et il veut désormais partir. Sébastien Berriot l'a rencontré à Wuhan, la ville où tout a commencé.
Nous l'appellerons Peter. Ce jeune père de famille nous a donné rendez-vous dans un bar du centre-ville de Wuhan. L'épidémie a changé la vie de cet enseignant. Autrefois peu intéressé par la politique, il est désormais devenu un citoyen critique, comme si la gestion du Covid avait permis une sorte de prise de conscience. Il nous explique avoir désormais perdu confiance dans les autorités de son pays, sa voix a été modifiée.
Ce qui a été rapporté est totalement différent de ce que j'ai réellement vu et entendu, surtout en termes de chiffres. Parmi mes amis, il y a une famille où au moins 3 personnes sur 4 sont décédées et il y a de nombreux exemples identiques. Officiellement, le nombre de décès dus au Covid serait très bas, mais cela me semble très loin de la réalité et c'est probablement à cause de l'épidémie que j'ai changé ma façon de voir la vie, mes valeurs.
5 ans après, le père de famille n'arrive toujours pas à tourner la page.
L'épidémie est probablement un cauchemar dans ma vie. Je n'ai jamais connu de conditions de vie aussi difficiles et l'ensemble de l'environnement social me rend aujourd'hui très déprimé.
Peter cherche désormais un point de chute à l'étranger, un pays sûr comme la Chine, nous dit-il, mais qui permettrait à ses enfants d'échapper à l'éducation et à la propagande du Parti communiste.
Sébastien Berriot à Wuhan pour Inter. À Davos, au Forum économique mondial, Donald Trump prendra la parole à distance cet après-midi depuis les États-Unis et il trouvera en Suisse un allié, l'Argentin Javier Milei, qui s'est exprimé ce matin. Il a dénoncé, je cite, « le virus mental de l'idéologie woke » et pris la défense d'Elon Musk après le geste s'apparentant à un salut nazi effectué par le patron de Tesla. C'était lundi à Washington. Loin des choix de Trump et de Milei, la Thaïlande est devenue ce matin le premier pays d'Asie du Sud-Est à autoriser le mariage entre personnes de même sexe. Le drapeau arc-en-ciel, symbole de la communauté LGBT+, flotte avec fierté. Voilà ce qu'a dit la première ministre Shinawatra. Plusieurs centaines de couples thaïlandais doivent sceller leur union aujourd'hui. En Italie, c'est la libération d'un haut dignitaire du régime libyen qui fait polémique. La Cour pénale internationale demande d'ailleurs des explications à Rome, car cet homme, arrêté dans un premier temps par les Italiens, était poursuivi par la CPI pour crime contre l'humanité. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant à Rome. Cet homme a donc été libéré. Il est même rentré à Tripoli dans un avion de la République italienne.
Oui, il était à Turin le week-end dernier pour assister au match entre la Juventus et le Milan AC. C'est là qu'il a été arrêté sur requête de la CPI. Osama Najim est chef de la police judiciaire libyenne et responsable d'une prison connue pour ses nombreux cas de sévices, notamment contre les migrants. Raison avancée pour sa libération, un vice de forme. Le ministre italien de la justice aurait dû être informé avant son arrestation. Est-ce la seule raison? Mardi, dans l'après-midi, le ministre disait examiner la situation, mais dès mardi matin, l'avion avec drapeau italien qui a ramené l'homme en Libye, officiellement expulsé pour raison de sécurité, cet avion avait déjà fait le voyage entre Rome et Turin. Et par ailleurs, dans une note publiée hier soir, la Cour pénale internationale précise qu'elle avait averti le gouvernement italien via les canaux prévus à cet effet. Alors derrière cette libération, y a-t-il plutôt une raison d'État et le rôle clé de Tripoli dans la politique migratoire migratoire de Giorgia Meloni. Rome fournit assistance à la Libye pour qu'elle retienne les exilés de l'autre côté de la Méditerranée. Les arrivées de clandestins ont diminué de 60% l'an dernier en Italie. La première ministre est appelée par l'opposition à s'expliquer elle-même devant le Parlement.
Bruno Duvic en direct de Rome. Nous avons parlé ici même hier du plan de Donald Trump pour développer l'intelligence artificielle, près de 500 milliards de dollars. L'IA qui en ce moment révolutionne les recherches d'emploi, c'est ce que nous apprend une étude des associations Conexio et DiversiDays avec France Travail. 5300 demandeurs d'emploi interrogés et plus de la moitié d'entre eux se considèrent comme à l'aise dans l'utilisation de ces outils. Bonjour Luc Chemla.
Bonjour.
Bon, à l'aise, c'est une chose, mais également, ces personnes ont recours à l'intelligence artificielle.
Ah oui, quel que soit leur niveau d'études, plus des trois quarts des demandeurs d'emploi interrogés ont déjà utilisé l'IA pour leurs recherches, notamment ChatGPT. Exemple d'utilisation donné par Jean-Christophe Vidal, auteur de l'enquête à la tête de Conexio, une association d'insertion. Vous prenez certains outils d'IA, vous mettez votre CV et écrivez comme instruction.
Transforme-moi mon CV de façon à mettre plus en valeur les compétences attendues par cette offre d'emploi et vous copiez l'offre d'emploi. Vous allez avoir en résultat un nouveau CV, mais vous avez mis en valeur des compétences clés qui apparaissaient, mais qui ne ressortaient pas nécessairement dans les toutes premières lignes. Autre exemple, crée-moi une lettre de motivation pour tel poste dans telle entreprise et ensuite, un moteur d'IA va sortir une lettre de motivation à partir de zéro.
C'est justement pour l'aider à faire ses lettres que Kevin, 30 ans, a recours à l'intelligence artificielle. Ce Breton cherche un travail dans le marketing digital et l'utilise surtout pour gagner du temps.
Quand on veut postuler à trois entreprises, finalement, on se dit que perdre deux heures à écrire des lettres de motivation qui sont uniques, c'est quand même beaucoup plus simple quand on a l'aide de ChatGPT.
Alors pratique, certes, mais parfois problématique.
Ça fait beaucoup trop soutenu des fois, tellement bien structuré que ça en fait faux.
Avec parfois aussi des inexactitudes, donc Kevin l'assure, il faut toujours repasser derrière. D'ailleurs, d'après l'étude, 40% des demandeurs d'emploi interrogés trouvent les outils d'IA mal adaptés à leur recherche.
Merci Luc Chemla. Là, on va plutôt remonter le temps. Les années 60, une chaîne de discothèques marque le monde de la nuit. C'est le Macumba, et bien c'est l'heure de la dernière danse. On l'a appris hier, le dernier représentant de ces clubs mythiques avec leur design si particulier, ce club situé à Anglo, dans le Nord, va fermer ses portes le mois prochain. Le patron et fondateur prend sa retraite. Il n'a pas trouvé de repreneur. Une page se tourne. Reportage Nostalgie, signé Arthur Fradin.
10 ans que Jimmy fréquente le Macumba d'Anglo dès qu'il en a l'occasion.
Moi, c'était ma deuxième maison, c'était mon QG.
Cet habitant de l'homme dans la métropole lilloise ne loupait pour rien au monde.
Tous les 3 mois, des soirées 90-2000. Il y a eu La Rousseau, il y a eu Tragédie.
Des soirées à thème et des nuits endiablées qui ont longtemps fait le succès des clubs Macumba, des dancing à leur origine dans les années 60, est devenue cette grosse chaîne qui a compté jusqu'à 23 établissements dans les années 70-80, pile l'époque où Jean-Pierre Madère, un habitant, écrit son grand succès.
C'est une histoire de 60 ans. Ça fait partie du langage familier des Français. Se dire que c'est le dernier qui disparaît, ça fait quelque chose.
Dimitri Derepa, le directeur d'exploitation du Macumba d'Anglo.
L'établissement se porte bien, mais vendre un fonds de commerce de discothèque aujourd'hui, vous savez, surtout dans des gros établissements comme ça d'époque, se font de plus en plus rares. Aujourd'hui, c'est plus des établissements qui ouvrent plus tôt, qui ferment aussi plus tôt, des établissements souvent plus de centre-ville.
Les clubs Macumba basés en périphérie, un peu sur le modèle des hypermarchés, n'attirent eux, pas les repreneurs. D'autant que depuis le Covid, les banques ne prêtent plus au monde de la nuit qui s'est beaucoup endetté, alerte le syndicat des discothèques. Il appelle les pouvoirs publics à se saisir du problème pour que le tube Macumba continue de résonner au milieu des boules à facettes.
Il nous reste le tube, c'est peut-être l'essentiel. Reportage Arthur Fradin, 13h28 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo de Sébastien Léas qui a mis sa plus belle chemise pour aller au Macumba encore quelques jours. Puis à 13h30, direction le Canada où nous attend la mairesse de Montréal, Valérie Plante. On a beaucoup de questions à lui poser sur l'arrivée au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis, sur les sujets du logement et du réchauffement climatique également que l'on partage avec les Canadiens. 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h45, nous retournons dans notre collège de la Marne qui expérimente le dispositif pause numérique. Les collégiens laissent leur portable à l'entrée. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Marie-Luce Ribaud du journal Sud-Ouest et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Marie-Luce, vous nous parlez d'un concours.
Oui, Jérôme, les Bocuse d'Or, rendez-vous à Lyon dimanche et lundi pour la finale mondiale de cette manifestation en lice. Paul Marcon, 28 ans, qui espère remporter cette compétition spectaculaire et marcher dans les pas de son père, Wenger, en 95. C'était il y a 30 ans.
Et on l'espère aussi, on espère aussi retrouver une bonne liaison avec vous. D'ici 15 minutes, Marie-Luce en direct de Bordeaux. Et avec vous, Frédéric, une humoriste.
Humoriste et chanteuse, il s'agit de Camille Lelouch. Elle vient de faire paraître son deuxième album et avec elle, c'est une chanson de Maria Carré qu'on écoutera. Maria Carré, l'une des premières chanteuses que Camille Lelouch a cherché à imiter quand elle était enfant.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Un avenir radieux, c'est le roman événement de Pierre Lemaître. Un voyage à Prague, des ruches en feu, un maître espion, une épouse éméchée, des pyjamas gris-perles, une bonne sœur en scooter, cette ordure de Macagne, un cœur fatigué, 3 kilos de sucre, une poussière mortelle, le chat Joseph, une nuit au boxon, le prix à payer, un traître haut placé et une grande, très grande histoire d'amour. Un avenir radieux, un roman flamboyant de Pierre Lemaître aux éditions Calman Lévy.
Bienvenue chez Écoutez Voir.
Et là, vous entendez mieux ?
Et s'il suffisait de pousser la porte pour bien l'entendre ? Eh oui, chez Écoutez Voir, le bilan auditif est gratuit. Et les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Alors n'attendez plus pour bien l'entendre. Écoutez Voir, optique et audition.
Mutualiste.
Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical. Point de vente soumis au code de la mutualité. Conditions sur écoutezvoir.fr.
France Inter présente le bilan du monde. Dans ce hors-série annuel, la rédaction du Monde revient sur une année 2024, bousculée par les guerres mondialisées, les crises politiques et les catastrophes écologiques. Pour mieux comprendre les défis de 2025, le bilan du Monde dresse l'état des lieux des 198 pays et propose une synthèse des événements marquants de l'actualité internationale, économique et environnementale de l'année écoulée. Le bilan du Monde, à lire en ce moment, avec France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
C'est l'accalmie entre deux perturbations.
Effectivement, journée de transition pour aujourd'hui puisqu'une perturbation s'évacue sur l'Est et une autre va aborder les côtes de la Manche cet après-midi. Le ciel sera d'ailleurs bien chargé entre la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté et les Alpes avec quelques pluies faibles ou de petites chutes de neige des 1000 mètres d'altitude, voire plus bas sur les Vosges. Attention aussi au risque d'avalanche sur les Alpes du Sud. La nouvelle perturbation va elle apporter des pluies cet après-midi sur la Bretagne, la Normandie et l'ouest des Hauts-de-France avec même quelques orages localisé. Le vent va également se renforcer avec de violentes rafales le long des côtes du nord-ouest. Et puis sur le reste du pays, le ciel sera plus partagé. Les nuages seront nombreux et prédominants, mais de belles éclaircies arriveront à se développer, en particulier des plaines du sud-ouest à la vallée du Rhône. Le soleil sera encore plus généreux autour de la Méditerranée, hormis sur l'ouest de la Corse, voire sur les plages des Alpes-Maritimes qui seront concernées par des grisailles. Les températures maximales sont globalement 1 à 2 degrés au-dessus des valeurs de saison. Prévoyez 6 à 12 degrés sur la moitié nord, 10 à 18 degrés plus au sud, avec 8 degrés pour Strasbourg et Paris, 10 degrés à Lyon, 12 degrés à Brest et à Toulouse et 15 degrés à Biarritz et à Marseille.
Sébastien Léas, Météo France.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
Bonjour Valérie Plante.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes depuis 2017 la mairesse de Montréal. Mairesse, c'est ainsi que l'on dit au Canada, au Québec, où il est 7h32 du matin. Merci d'être avec nous pour débuter votre journée. Montréal, ville principale de la province de Québec, deuxième ville la plus peuplée du Canada, un peu plus d'1 800 000 habitants. Nous vous avons invité pour parler de l'arrivée de Donald Trump au pouvoir chez votre voisin américain, mais aussi de la situation politique chez vous. Votre Premier ministre Justin Trudeau vient de démissionner. Et puis d'autres préoccupations qu'on connaît aussi ici en France, la question du logement, des meublés de tourisme ou encore la défense de la langue française. 01 45 24 7000 pour les auditeurs de France Inter qui souhaitent vous interroger. Vous pouvez également passer via l'application France Inter. Avant de rentrer dans le sujet américain, si je puis dire, Valérie Plante, je voudrais qu'on dise un mot de votre situation personnelle. Vous avez annoncé à l'automne dernier que vous ne vous représenteriez pas un troisième mandat. Vous avez expliqué que vous n'auriez pas assez d'énergie pour tenir 4 ans de plus. Et c'est un discours qui est assez rare dans la bouche d'un responsable politique, en tout cas ici en France, où le plus souvent les responsables politiques n'aiment pas parler de leurs failles ou de leurs faiblesses. Pourquoi avoir fait ce choix ?
Ah, mais c'est intéressant comme question, mais en fait, c'était vraiment important pour moi de démontrer que
Le pouvoir, quand on l'a, ben, on l'exerce, évidemment, mais c'est aussi une bonne chose de pouvoir passer le ballon, si je peux dire, et de faire en sorte que d'autres personnes puissent aussi prendre des décisions importantes, bien sûr, pour la ville de Montréal, mais aussi avoir un impact sur des populations locales. Et donc, le travail de mairesse est très exigeant dans un contexte, on va en parler, politique macro, mais au niveau micro, bien ici à Montréal, au Québec et au Canada, on traverse des moments difficiles au niveau d'une crise de l'itinérance. Il y a aussi les impacts des changements climatiques. Et donc, c'était important pour moi. J'ai toujours été très transparente et j'ai toujours voulu amener cet aspect très humain parce qu'au final, même un politicien est un humain. De dire, écoutez, j'ai de l'énergie, j'en ai beaucoup, mais 4 autres années, pas certaine de pouvoir le garantir, alors je passe le ballon.
Vous avez parlé d'itinérance, c'est la question des sans-abri. On va l'évoquer ensemble dans une minute. Il fait extrêmement froid chez vous, c'est aussi l'un des aspects du problème. D'abord, parlons de Donald Trump, qui est donc entré en fonction en début de semaine et qui a annoncé d'emblée une hausse pour le 1er février des droits de douane sur les produits canadiens de 25%. Est-ce que vous pouvez estimer d'ores et déjà les conséquences pour l'économie de votre ville?
En fait, présentement, l'ensemble des premiers ministres des provinces et bien sûr l'État canadien, bien qu'il soit déstabilisé par ce que vous avez mentionné en ouverture avec la démission le départ du premier ministre M. Trudeau, il y a toute une coalition, un travail de fond qui se fait pour pouvoir d'un côté chiffrer, mais aussi d'évaluer quelle serait la réponse du pays face à cette menace. C'est une menace, pour l'instant, ça n'a pas été mis en place, ou du moins M. Trump n'a pas décidé dans son discours inaugural d'aller de l'avant. Mais j'ai envie de rappeler aux auditeurs, auditrices qui nous écoutent, c'est que bien que ce soit une menace, il faut aussi rappeler à quel point les États-Unis et le Canada, et j'ai envie de vous dire le Québec parce qu'on est sur la frontière avec les États-Unis, on partage cette frontière. Il y a une centaine d'années d'amitié et de collaboration qui est extrêmement forte. Et ce qu'on a l'intention de faire, nous, les villes, entre autres, c'est de soutenir les gouvernements supérieurs à réitérer ce lien extrêmement puissant, bien qu'on soit deux pays complètement différents.
Mais pour un lien, Valérie Plante, il faut être deux. Et là, manifestement, Donald Trump, il a plutôt envie d'être dans la menace vis-à-vis de vous que dans l'alliance.
Oui. écoutez, je pense qu'on a un style Trump. On voit aussi qu'en Amérique, dans les Amériques, il y a également ce type de politique, de politicien, je pense au président de l'Argentine, M. Javier Milei, aussi qui s'inscrit un peu dans cette politique spectacle, d'entrer toujours sur le ring avec les gants de boxe, si je peux amener une image. Alors évidemment, il y a les mots, il y a le spectacle, et après il y a ce qui va être décidé. Et je tiens à mentionner que le lien économique, bien sûr, le Canada exporte beaucoup des États-Unis, mais c'est aussi vrai dans l'autre sens, et ça pourrait être une riposte possible, je dis bien possible, d'augmenter les frais tarifaires des produits canadiens vers les États-Unis.
Vous y seriez favorable? Ça serait soutenable pour votre pays?
Honnêtement, j'ai envie de vous dire que pour nous, au niveau des villes, il y a quand même, ça aurait un impact majeur, mais je pense que la collaboration et comment les différentes provinces sont en train de s'organiser pour penser aux différents scénarios, ça serait prématuré pour moi de vous répondre sur cette question-là. J'ai plutôt envie de vous dire que mon travail en ce moment est surtout de rassurer les citoyens montréalais, montréalaises qui, sont très, très inquiets, avec raison, et qui veulent être rassurés que la mairesse de Montréal, elle, va continuer à avoir des politiques sociales fortes, un agenda environnemental extrêmement puissant pour contrer ce que les États-Unis pourraient faire, ou même ce qu'un nouveau gouvernement canadien pourrait adopter, voulant suivre peut-être la mode Trump.
Bah justement, Donald Trump a été élu sur la promesse de stopper l'immigration illégale et de renvoyer chez eux des millions de clandestins. Chez vous aussi, Valérie Plante, le gouvernement de Justin Trudeau a pris des mesures pour limiter l'immigration, a changé de politique. La résidence permanente et ce qu'on appelle chez vous le parrainage ont été restreints. Oui. C'est en raison de l'évolution de l'opinion publique sur cette question?
En fait, j'ai envie de vous dire que ici au Québec, et j'ai envie de vous dire ici à Montréal, 70% des nouveaux arrivants qui arrivent au Québec viennent à Montréal. La pression est extrêmement forte. On parlait tout à l'heure de la crise de l'itinérance. Mais je dois aussi y ajouter la crise du logement, les manques de logement flagrant, des coûts astronomiques pour pouvoir se loger décemment. Alors, j'ai envie, sans parler du chiffre ou de la politique, clairement, il y avait une pression vraiment insoutenable. En tout cas, ici à Montréal, on le sent sur les services. Encore une fois, on veut que quand les gens arrivent, ils puissent se loger, s'intégrer à la société. Donc, ça devenait extrêmement difficile. Alors, je pense que...
Il y avait trop d'immigration.
J'ai envie de vous dire, ça jumelé à d'autres éléments. Donc, loin de moi l'idée de faire un amalgame simpliste comme quoi les immigrants empêchent, une trop grande pression sur les logements. Mais force est d'admettre qu'ici, au Canada, il n'y a pas eu assez de logements construits au cours des 30 dernières années pour pouvoir soutenir l'augmentation démographique, entre autres liée à l'immigration.
Est-ce que vous pensez que justement cette politique de Trump peut pousser des Américains à venir vivre chez vous au Canada? Est-ce que vous vous y préparez?
Écoutez, ici à Montréal, parce qu'on est près de la frontière américaine, la pression sur une augmentation des migrations a été forte. Il faut se rappeler que les États-Unis avaient décidé de fermer la frontière. Il y a une entente de pays tiers sûrs entre le Canada et les États-Unis. On a eu une grande vague d'immigration, entre autres haïtienne, vers le Canada. Je dis haïtienne, mais ça pourrait être plus grand aussi, là. Et on a vu la pression que ça avait. Les politiques américaines, je dirais, pour ralentir l'immigration, ont eu un impact au Canada. Les gens descendent. On peut même penser que les gens qui... Beaucoup d'immigrants, de demandeurs d'asile, de l'Amérique centrale traversent les États-Unis pour venir au Canada. Alors, nécessairement, il faut pouvoir, encore une fois, garantir des conditions d'accueil. Et moi, je veux vraiment mettre de l'emphase là-dessus parce qu'on peut facilement tomber dans un débat de chiffres. On parle ici d'individus, de familles, d'enfants qui cherchent un endroit où pouvoir s'établir. Alors, il faut avoir les bonnes conditions et ça passe par un logement. Et entre autres, pour le Québec, vous le savez, la question de la langue française est extrêmement importante, à Montréal aussi. Donc, on doit aussi avoir ces bonnes conditions d'accueil.
Ces conditions d'accueil pour les migrants, des conditions de logement aussi. Et vous nous l'avez dit, il y a chez vous une forte crise de ce que vous appelez l'itinérance. Ici, en France, on parlera de crise du logement pour les SDF, pour les sans-abri. J'ai lu qu'entre 2018 et 2022, le nombre de personnes en situation d'itinérance dans votre ville, Montréal, avait bondi de 33%. Vous savez combien de personnes ça représente aujourd'hui qui sont à la rue?
Oui, c'est énorme. Votre chiffre est le bon. Donc, on peut dire que le nombre d'itinérants a doublé à Montréal. On parle d'à peu près 5 000 personnes en situation d'itinérance. Et ce qu'on remarque, en fait, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes âgées, donc des personnes aînées qui n'arrivent plus à payer leur loyer et qui se retrouvent dans des refuges d'urgence, donc dans des refuges de personnes pour personnes en situation d'itinérance. Heureusement, nous n'avons pas vraiment de famille ou d'enfants. Est-ce qu'on pourrait remarquer, par exemple, dans des pays avec un climat plus clément ou encore aux États-Unis où il n'y a pas de filet social, ce qui n'est pas le cas du Québec, mais quand même, mais on voit quand même beaucoup de jeunes, je vous dirais de 18 à 30 ans à la rue, donc et de personnes immigrantes également. Donc, le profil change également. Donc, ça a doublé le nombre de personnes en situation d'itinérance. Et vous l'avez dit, enfin, disons-le, en ce moment, dans un vortex polaire. Il fait froid. On ne peut pas...
Moins 15, c'est ça?
Les gens ne peuvent pas dormir
moins 15?
À l'extérieur. Moins 15, mais avec le facteur vent et humidité, je vous dirais qu'au ressenti, c'est plus autour de moins 22, moins 25. Là.
Mais ça veut dire qu'il y a des gens qui, dans ces conditions, ont passé la nuit là dehors, dans votre ville?
Ben Montréal, non, parce qu'on veut pas laisser personne derrière. Donc, il y a des navettes, on ouvre des refuges d'urgence. Les gens se retrouvent beaucoup à dormir dans le métro. Mais c'est pas pour une société riche comme le Canada, comme le Québec, ça n'a aucun sens. Encore une fois, nous avons un filet social. Je pense que la France et le Canada se ressemblent à bien des égards. On est très loin des États-Unis où c'est complètement autre chose. Donc,
Mais comment vous l'expliquez, Valérie Plante? Comment vous expliquez cette dégradation si rapide?
Ben, je vous disais tout à l'heure, le nombre de logements qu'on dit sociaux pour les personnes les moins nantis qui n'a pas suivi la cadence du fossé, je vous dirais, il y a de plus en plus un clivage socio-économique. Donc, il y a plus de personnes moins nantis et beaucoup plus de personnes plus nantis. Donc, la classe moyenne s'effrite. Je pense que c'est des éléments que encore une fois, des thèmes qui reviennent chez vous aussi. Plus, oui, de l'immigration, mais j'ai envie de vous dire que La crise du logement est vraiment, selon nous, au centre de l'incapacité de pouvoir loger tout le monde et d'offrir des services.
Sur les questions de la différence entre la France et le Québec, Julien, sur l'application France Inter, après ce que vous nous avez dit au départ, la volonté pour vous de ne pas faire de troisième mandat, beaucoup de maires démissionnent ou ne se représentent pas, nous dit Julien. Est-ce que c'est chez vous aussi les mêmes difficultés, Valérie Plante, vous qui êtes la mairesse de Montréal?
Oui, absolument, parce que le municipal est le palier qui est le plus près du citoyen pour le meilleur, mais aussi pour, parfois, je vais vous le dire, le pire. On vit beaucoup d'intimidation, parfois des citoyens qui souffrent ou qui ont des enjeux. Oui, exactement. Et donc, ça affecte la santé mentale, ça affecte même des familles de certains maires et mairesses au niveau municipal. Et aussi, j'ai envie de vous dire, vous savez, quand on parle des différences ou du logement, ce sont des enjeux qui relèvent des gouvernements supérieurs au niveau des pouvoirs et du financement. Et c'est très difficile pour nous, les maires, parce que, bien sûr, pas question de laisser quelqu'un dormir au grand froid, mais nous n'avons malheureusement pas les leviers pour pouvoir agir de façon structurante, vous voyez, de vraiment trouver des solutions. Donc, il y a un épuisement également au niveau de ça.
Une dernière question, Valérie Plante. Vous êtes très engagée, votre ville aussi, dans la lutte contre le changement climatique. Est-ce qu'il y a aussi dans votre ville, comme en France, des zones où certaines voitures les plus polluantes sont interdites?
Ben écoutez, nous, on commence un peu plus loin que chez vous, parce que nous, notre système de transport collectif est peut-être moins développé. Donc, on est plutôt à installer, d'augmenter l'offre de transport collectif, d'augmenter le transport actif via pistes cyclables et autres. Parce que croyez-le ou non, même en grand froid comme ça, il y a des gens qui pédalent l'hiver. Alors ça, c'est une... Les Montréalais, nous sommes des
pas vous, manifestement.
Comment?
Pas vous, manifestement.
Ben, en fait, mon fils et mon mari, oui. Mais ceci étant dit, juste pour revenir à votre question, le changement climatique, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, je tiens à mentionner le travail qui a été fait par ma collègue Anne Hidalgo, dont je suis très proche, parce que je pense que les maires des villes, on a beaucoup apporté dans ce débat qui est vraiment d'adapter nos territoires face au changement climatique, que ce soit avec des zones zéro émission, comme vous l'avez mentionné, ou d'autres mesures pour vraiment mieux protéger nos citoyens face à des vagues de chaleur ou des inondations.
Merci Valérie Plante d'avoir accepté l'invitation de ce 13-14 aujourd'hui, en direct donc de Montréal, où il est 7h46, vous qui êtes la mairesse de Montréal. Merci à vous, 13h46 donc, ici
Merci,
en France.
Merci, bonne journée.
Notre feuilleton, les collégiens et leurs portables, ils sont nombreux à passer des heures sur les réseaux sociaux et cela perturbe leur scolarité. Pour y remédier, 50 000 élèves suivent depuis le début de l'année scolaire l'expérimentation Pause numérique. Ils déposent dans une boîte leur téléphone à l'entrée du collège. Ça se passe notamment au collège du Mont d'Or à Saint-Thierry, au nord de Reims. Quatrième épisode aujourd'hui, nous rencontrons l'infirmière et le CPE.
Il y a une petite dizaine d'années, les élèves n'avaient pas de portable comme maintenant. On n'avait pas de problème de harcèlement, de fake news, de photos prises à l'insu d'autres élèves. Il y avait beaucoup moins de problèmes. Certains commençaient à les avoir en fin de troisième pour aller au lycée. Mais maintenant, dès la rentrée en sixième, ils ont leur portable, voire même avant pour certains qui peuvent l'avoir dès l'école primaire. Je m'appelle Laurence Buneau, je suis infirmière scolaire au Collège du Mont d'Or depuis septembre 2003.
En 2003, les élèves, ils n'avaient pas encore de téléphone portable dans leur poche ni dans leur cartable.
Et non, on était bien tranquilles, on n'avait pas du tout de téléphone et c'était très très bien. Pour les élèves que je reçois en entretien pour le harcèlement, puisque je suis référente dans le plan phare du harcèlement, on parle effectivement des téléphones portables et de l'usage abusif. Ils se créent entre eux des petits groupes sur Snapchat, sur Facebook, sur TikTok et tout ça. Et certains peuvent être harcelés sur ce genre de petits groupes. Ils ont du mal à admettre que les réseaux sociaux sont une des causes qui aggravent la situation parce que ça fait partie de leurs outils qu'ils ont au quotidien et ils ont vraiment du mal à admettre. Et ce qu'on a du mal à faire aussi, c'est à demander aux parents d'avoir un contrôle sur les réseaux de leurs enfants.
C'est-à-dire leur dire attention.
C'est ça, leur dire attention. Leur dire aussi que... pour certains, ils ont moins de 13 ans et ils ne sont pas autorisés à être sur les réseaux. Donc c'est qu'à un moment donné, soit ils ont triché sur leur âge ou soit les parents ont accordé qu'ils aient un réseau. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'ils n'amènent même plus du tout leur téléphone et qu'ils restent à la maison. En fait, il n'est pas utile. Quand il y a un problème, on appelle les parents et c'est suffisant.
Sébastien Ferjot, je suis CPE, conseiller principal éducation, dans cet établissement-là, au Collège du Mont d'Or Saint-Thierry, depuis 2019. Chez nous, ils viennent par le bus, ils repartent par le bus, donc ils peuvent effectivement sortir leur portable le matin avant d'arriver au collège et le soir avant de repartir. Toutes les études démontrent que quand un portable bip, sonne, vibre, etc., etc., les élèves mettent plusieurs dizaines de minutes, je crois une vingtaine à peu près, à se remobiliser cognitivement parlant pour écouter le cours. Ça, c'est une première, un premier avantage de la pause numérique. Le deuxième, c'est d'éviter toutes les sources de harcèlement et de cyberharcèlement par l'utilisation du portable de manière frauduleuse dans l'établissement, c'est-à-dire dans les toilettes, dans les vestiaires, etc., etc. Et puis le troisième, c'est de recréer du lien social entre eux, notamment, l'exemple que je peux donner, c'est sur les sorties scolaires auparavant, les élèves avaient le droit d'utiliser dans le bus leur portable et en fait, les élèves communiquaient entre eux, directement par leur portable, en fait, et pas par bêtement la voix, en fait, humainement parlant. Donc l'avantage aussi, c'est de recréer du lien social entre eux, c'est-à-dire plus de portable dans le bus. Donc, si on a envie de parler à son camarade, on lui envoie par SMS, on lui parle. Voilà.
Parlons-nous tout simplement, Victor Vasseur, pour ce feuilleton. Suite et fin demain.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France, 13h50, le jeudi, avec notre journaliste gastronomie, Marilus Ribaud du journal Sud-Ouest. Marilus, vous nous parlez d'un concours pour chef. Alors, ça n'est pas Top Chef, c'est beaucoup plus prestigieux. Ce sont les Bocuse d'Or qui se déroulent dimanche et lundi à Lyon.
Jérôme, c'est même le concours des pros de cuisine, ce Graal inventé par Paul Bocuse, qui a régné un empereur patriarche de la gastronomie française durant la seconde moitié du XXe siècle. Les Bocuse d'Or, ce sont 24 chefs venus de 24 pays qui s'affrontent tous les deux ans dans cette ville de Lyon réputée pour savoir faire ripaille. Cette compétition, c'est un show. Des créations culinaires somptueuses défiant parfois les lois de la gravité. Et c'est aussi un grand barnum qui attire une multitude de sponsors du monde de la restauration et de l'agro-industrie.
Alors, en quoi consiste ce concours ?
Les concurrents ont 5h30 précises pour présenter à un jury de chefs internationaux deux recettes. L'une avec du maigre, du homard, du céleri, l'autre avec du chevreuil, du foie gras et du thé, les ingrédients retenus cette année. Face aux dangereux scandinaves, japonais, britanniques, marocains ou chiliens, le français en lice se nomme Paul Marcon.
Les Marcon, grande famille de la gastronomie française.
Oui, le père Régis affiche 3 étoiles à Saint-Bonnet-le-Froid en Haute-Loire. Et le parcours de Paul fait écho à son histoire. C'était il y a exactement 30 ans, j'étais tout jeune, totalement autodidacte, se souvient Régis Marcon. Pierre Troisgros avait proposé ma candidature à Paul Bocuse. En 1995, le Bocuse d'Or demandait déjà beaucoup de préparation. Mais cela n'avait rien à voir avec aujourd'hui. J'avais dû travailler le homard, le bar et le carré de veau. De ma victoire, je retiens surtout la lumière qu'elle a apportée sur mon restaurant et mon village. Alors bien sûr, Jérôme, Régis Marcon stresse un peu pour Paul. Cela fait 2 mois que le petit s'est isolé du côté de Lyon, avec son équipe organisée comme une écurie de Formule 1. Il y a le coach technique Christophe Quentin, la commise Camille Pigot, mais aussi un sophrologue et même un accompagnateur physique. Paul est une bête à concours, nous dit son père. Il est intelligent, méthodique. Actuellement, il répète chaque geste. Il sera prêt et je sais que lundi, entre 9h30 et 15h, il donnera tout.
Et vous avez également, Marilus, retrouvé le tout premier Bocuse d'Or.
Oui, il s'agit de Jackie Fréon, 77 ans, vainqueur en 1987. À l'époque, il était chef au Lutetia à Paris. À la retraite, il a bénévolement formé des jeunes en difficulté au sein des apprentis d'Auteuil. Dans la vie, il y a toujours un facteur chance. J'ai eu celle de devenir Bocuse d'Or, nous dit-il. Il fallait donc que je permette à d'autres de transformer leur destin.
Alors, venons-en à la recette du jour. Ça va être périlleux, gros défi, Marilus. On va pas la puiser dans les Bocuse d'Or, c'est un peu trop compliqué.
Oui, j'ai donc cherché une recette de Paul Bocuse. Et ouf, j'en ai trouvé une simplissime dans son livre de 1976, La cuisine du marché. Voici donc sa soupe de courge prévue pour 6 à 8 personnes. Prenez une courge muscade ou un potiron de 3 à 4 kilos. 3 litres de crème fleurette. Il ne les tenait pas vraiment, monsieur Paul. Hein. 100 g de gruyère râpée, 250 g de croûtons grillés. Coupez le sommet de la courge pour en faire une soupière. Ôtez les graines, remplacez par les croûtons en couches successives avec le gruyère. Salez, poivrez et remplissez de crème fleurette. Refermez avec le chapeau de la courge et faites cuire à 180 degrés au four pendant 2 heures. Un peu d'histoire, cette recette, à quelques détails près, était déjà codifiée par François-Pierre de la Varenne dans Le cuisinier François. C'était le premier livre de cuisine moderne édité en 1651.
Vous nous faites même de l'histoire. Merci Marie-Luce Ribaud du journal Sud-Ouest de C'est la France. Ah, c'est une chanson. Votre invité aujourd'hui, Frédéric Pommier, est à la fois humoriste et chanteuse. Il s'agit de Camille Lelouch.
Camille Lelouch qui vient de sortir son deuxième album, 40 minutes, 14 morceaux. Et c'est un titre de la diva Maria Carré qu'elle a souhaité que l'on écoute. My Hole, une chanson qu'elle rêvait d'interpréter elle-même et d'interpréter parfaitement quand elle était enfant.
C'est vrai que quand Maria Carré sort cette chanson, vocalement, mon défi, c'est d'y arriver. Alors, évidemment, ça ne marche pas du tout, parce que c'est quand même Maria Carré, mais j'ai travaillé des années, jusqu'à y arriver. Et c'est un truc qui m'a marqué parce que je sais chanter, c'est cool, et je voudrais chanter comme elle. Je sais pas, je l'aimais trop. De toute façon, tout Maria Carré. Le fait qu'elle aime les papillons, j'ai aimé les papillons. Aucune personnalité quand il s'agit de Maria. Vraiment, elle avait que des papillons, elle avait des bagues avec des petits papillons.
Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous avez commencé à mettre des bagues avec des petits papillons ?
Ouais, tout collier papillon, les petites barrettes papillons. Ah là là.
Et vous trouvez qu'elle a quoi de plus au moment où vous la découvrez ?
En fait, quand j'avais 6, 7, 8 ans, je me disais, oh, elle est trop belle. Évidemment, c'est un critère pour une petite fille, hein, quoi qu'il arrive. Quand tu comprends que c'est pas ça la vie, voilà. Mais quand t'es petite, c'est vrai que tu dis, oh, je veux des cheveux longs. Alors que moi, j'avais des carrés que ma mère me faisait avec ses ciseaux, des carrés pas vraiment parallèles. Enfin, les cheveux longs, c'est un truc déjà chez une femme, en plus, qui chantait bien. Oh ! Je trouvais ça magnifique.
Donc c'est pas seulement sa voix que vous
non,
aimiez.
Non, non, c'est un tout, ouais. C'était Maria Carré, quoi. I am thinking of you in my sleepless solitude tonight. If it's wrong to love you, then my heart just won't let me be right. Cause I'm drowned in you and I won't pull through without you. I'd give my all to her.
C'est en 1997 qu'est sortie cette chanson de Maria Carré, Frédéric.
Une chanson d'amour, enfin d'un amour malheureux. Une femme attend un homme qui ne reviendra pas. Nous avons donc parlé d'amour avec Camille Lelouch. Et aujourd'hui pour elle, de ce côté-là, tout va bien.
Déjà, avec mon mari, on a très vite communiqué, ce que moi je savais pas du tout faire. Enfin, c'est-à-dire, moi, comme je suis un peu impulsive, je me suis calmée avec les années, mais s'il y avait une histoire, j'étais vraiment dans un truc de « bon, écoute, j'ai pas envie de parler avec toi ». Et il me disait « bah si, tu vas t'asseoir, puis on va discuter ». Et comme tu sais que t'aimes la personne, tu le fais, ça aurait été quelqu'un d'autre, peut-être que j'aurais pas voulu. Mais j'ai tout de suite été dans un truc de « ah oui, il est mature, quoi, j'ai pas l'habitude ». Et en vrai, c'est bien de parler. Ça fait mal, mais ça fait du bien aussi.
Donc ça, c'est une première chose qui est différente par rapport à vos précédentes relations.
Ouais, la confiance aussi. Le fait de se dire « j'ai profondément confiance Pour moi, l'amour sain, il y a un mélange de tout. C'est-à-dire à la fois de la communication, des rapports intimes, de l'humour. Non, j'ai de la chance, en fait. Par rapport à tout ce que j'ai vécu, j'ai de la chance. Je peux me permettre de le dire.
Il y a des gens qui disent et qui pensent que l'amour sauve de tout. Vous, est-ce que vous avez l'impression que l'amour vous a sauvé ?
Oui, clairement. Il m'a sauvé de moi, mon addiction que j'avais à boire tout le temps, beaucoup, machin.
Oui, il vous a dit, tu bois trop ?
Ah bah, il m'a surtout dit, c'est ça, si tu veux vraiment qu'on construise quelque chose, si un jour t'aimerais avoir un enfant, c'est non, en fait. Bah, j'ai dit, c'est-à-dire ? Il me dit, bah, c'est-à-dire, il est 14h, en fait. Voilà.
Vous étiez alcoolique ?
Ah bah, clairement, je buvais tous les jours, donc pour moi, oui, c'est une forme d'alcoolisme. Mais bon, je pense que les femmes, elles en parlent pas. Quand j'en parle, c'est parce que je sais que j'ai pas de problème avec ça. Et surtout, ça rassure aussi les gens de se dire « Ah oui, elle aussi, elle a eu ce truc-là ».
Il y a pas beaucoup de chansons sur ce sujet-là.
J'en ai écrit deux que j'ai jamais sorties, qui est pas mal d'ailleurs. Peut-être que je vais la réécouter, voir s'il y a des choses à faire. Mais oui, je pense que c'est intéressant. C'est dur à bien tournée. C'est marrant qu'on parle de ce truc-là.
Cette chanson-là, elle ne vous ramène qu'à des souvenirs joyeux.
Exactement, que positif, joyeux. Pour une fois. Non, très joyeux, très positif, très agréable, très rassurant. Et surtout quand elle arrive, même par hasard. Je suis en mode, oh, je sais pas, il y a un truc comme une Madeleine de Proust. J'ai un truc d'enfance qui me rassure, qui me remet dans des moments où la période où t'es dans ta chambre, t'es en sécurité, t'es rien arrivé dans ta vie, t'as tes grands-parents, t'as ton petit goûter, tout est bien. Je sais pas, c'est touchant, quoi.
C'est marrant qu'on parle de ce truc-là. Je trouve que ça résume, c'est une chanson. My All, Maria Carré. C'était donc Frédéric, le choix de Camille Lelouch.
Camille Lelouch, dont vient de paraître le deuxième album, il a pour titre 2, 2 oui. En chiffres romains, c'est facile à retenir.
Merci Frédéric et à demain.